morning edition from NPR News.
Let's see things on Peter House.
I am ready to lose the Paris.
Je peux vous en la radio.
France Inter. Le 18-20.
Il y a un an, le 6 janvier, des groupes fascisants, d'autres complotistes, mais aussi des Américains lambda, républicains, envahissaient le Capitole, galvanisé par un Donald Trump qui persistait à parler de fraude électorale après sa défaite de novembre. Épisode bref, sans conséquences directes, avec des arrestations à la clé, mais épisode clé, justement, qui interroge toujours un an après sur la solidité de la démocratie américaine, et on y vient dans un tout petit instant. Le bruit du monde, ce soir, est au Brésil. Vous suivrez avec nous une brigade chargée de lutter contre le travail forcé, l'esclavage. Vous apprendrez que ces pratiques d'exploitation des hommes prospèrent grâce au Covid. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Legénie a trouvé des bouteilles de rhum lituaniennes à Taïwan, des autochtones enfin indemnisés au Canada et des abeilles qui manifestent dans les rues au Chili. 18h50, le cinéma en VO avec Corinne Pellissier. Aussi le programme des films à venir pour cette année, en commençant par A comme Avatar et en finissant comme S comme super-héros, vous allez voir. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four qui nous dira que les dérapages des chefs d'État ne sont pas si rares. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Dès. Un jour dans le monde.
Bonsoir François Hesbourg.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste en géopolitique, vous êtes président de l'International Institute for Strategic Studies, vous êtes aussi auteur, c'est votre dernier ouvrage, du Retour de la guerre, c'est aux éditions Odile Jacob. François Hesbourg, je le disais tout à l'heure, si on s'en tient au fait, le 6 janvier, rien n'a changé, rien n'a été obtenu, rien n'a été empêché, puisque les institutions ont tenu, puisque le président Biden a été validé, puisque les insurgés au fur et à mesure sont jugés aujourd'hui encore, et pourtant c'est l'épisode qui a tout changé. Est-ce que vous diriez qu'il est pivot dans l'histoire récente de la démocratie américaine ?
Oui, la réponse courte, c'est que c'est vraiment un pivot. Après tout, c'était une tentative, certes manquée, mais une tentative apparente, réelle, d'interrompre la certification des résultats des élections présidentielles par le Congrès. Il y a eu 5 morts, quand même, dans cette affaire. Les institutions ont tenu, et en ce qui concerne effectivement la certification des résultats, mais c'était malgré le président américain encore en exercice, Donald Trump, et non pas grâce à ce dernier.
À l'inverse, on se souvient très bien de cette phrase qui disait « Si Mike Pence fait ce qu'il faut, nous aurons gagné l'élection ».
Voilà, et Mike Pence, le vice-président de l'époque, a en fait refusé de jouer le rôle du briseur d'institutions. Il a joué le jeu. Mais un an plus tard, nous nous trouvons avec un parti républicain. C'est un parti de masse, hein, les deux grands partis américains, il y a des millions d'adhérents. Hein, et les gens s'identifient volontiers en termes partisans, beaucoup plus encore que ce n'est le cas dans la plupart des pays européens. Et de l'ordre des trois quarts, des républicains considèrent encore aujourd'hui que les élections présidentielles ont été volées.
Presque 60%, autour de 57, c'est beaucoup.
Ça dépend des sondages, mais on est dans un niveau extrêmement élevé qui n'a pratiquement pas bougé par rapport à la situation d'il y a un an.
Pardonnez-moi.
Autrement dit, les lignes n'ont pas beaucoup bougé par rapport à la tentative d'insurrection dont est, entre guillemets, crédité Donald Trump, et on s'en surtout crédité ses soutiens de l'époque.
D'autant plus que la fameuse commission qui est censée faire la vérité, faire la lumière, est faite de deux républicains. Ce sont les deux seuls, c'est Liz Cheney d'une part et Adam Kissinger de l'autre, ce sont les deux seuls qui ont accepté d'y participer, les autres ont dit non. Donc est-ce que ça veut dire que, de fait, on a de toute façon légitimé à la fois ce qui s'est passé au Capitole, légitimé le fait qu'il y a eu fraude, et j'y mets évidemment des guillemets, puisqu'il n'y a pas eu fraude, et qu'on fait vivre sciemment, les républicains font vivre sciemment le mythe de cette élection volée.
Oui, d'autant plus que dans l'intervalle, il y a bien eu une tentative de la part de la présidente de la Chambre des représentants, qui est démocrate, de provoquer la création d'une commission bipartisane, républicain-démocrate, réunissant les deux chambres, la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates et le Sénat qui est à peu près à 50-50. Et ça n'a pas été possible. Mmh. Les républicains ont refusé de jouer le jeu. Et on se retrouve avec une commission qui est naturellement taxée d'esprit partisan par les républicains, ce qui n'est évidemment pas faux en soi, puisque la quasi-totalité de ses membres sont effectivement démocrates, mais bien entendu, cet état de fait est lui-même le résultat d'un refus des républicains de faire jouer les institutions comme elles devraient normalement jouer. Après un événement aussi baroque que la tentative de prise de contrôle du Capitole le 6 janvier, la moindre des choses, c'est qu'effectivement, il y aurait eu une commission d'enquête bipartisane.
Et ce n'est pas le cas. Et la carrière politique de l'ancien président, puisqu'à ce moment-là, il est ancien président de fait, devrait être finie. On a l'impression, au contraire, que la carrière de Donald Trump reste sur une pente qui est une vraie pente ascendante.
Ah ben, il a une vraie pente ascendante. Et, d'abord, parce qu'effectivement, il a su convaincre ses sectataires que les élections avaient été volées, ce qu'ils appellent « the big steal », le grand hold-up, si vous voulez, avec ces pourcentages que nous avons évoqués en début d'émission. Et un président américain, Biden, qui n'arrive pas à faire travailler comme il le voudrait sa propre majorité. Il est arrivé à faire passer seulement une partie de ses réformes et seulement les toutes premières. Et tous les observateurs, quelle que soit leur préférence partisane, prévoient au mois de novembre prochain, donc 2022, aux élections de mi-parcours, de mi-mandat, une défaite cuisante pour les démocrates qui perdraient très vraisemblablement leur majorité dans les deux chambres cette fois-ci, et avec un président, Biden, pour lequel il n'y a pas de successeur naturel.
Alors, perdrait probablement ces élections, c'est souvent le cas d'ailleurs des élections à mi-mandat d'un président qui vient d'entrer, mais plus que ça, qu'est-ce qui empêcherait au fond la même chose de se passer d'autres 6 janvier, puisque désormais la confiance dans le processus électoral est extrêmement entamée, voire morte, et aussi que Trump d'ailleurs a placé un certain nombre d'hommes à lui dans ces institutions-là. Qu'est-ce qui empêche un événement de ce genre de se reproduire aujourd'hui, ou en tout cas une délégitimation totale de l'élection?
Ah ben, c'est surtout une délégitimation totale de l'élection qu'il faut craindre, ou une façon d'orienter les élections, de piloter les élections à côté de laquelle la façon dont ça s'est passé en 2016 lors de l'élection de Trump à l'époque apparaîtrait comme étant de la gnognotte. J'ajoute que les élections de 2016 ont été emportées, pour autant qu'on puisse en juger, de façon régulière par le président, par Donald Trump,
avec un vote populaire, vous voulez dire, qui était au contraire
sans avoir la majorité, bien sûr, du vote populaire. Ce qui est quand même extravagant, c'est que en 2024, nous risquons très fortement d'avoir à nouveau le Donald Trump en situation de favori, dans la mesure où Madame Harris ne semble pas pouvoir faire l'affaire, et où il paraît de moins en moins vraisemblable qu'un Biden très vieillissant puisse se représenter. Quand je dis très vieillissant, je suis charitable.
Il y a un historien américain cité ce matin dans Libé, François Hesbourg, qui dit que le camp autoritariste autour de Trump a plus effectivement de chances de l'emporter, que ce soit au midterm d'ailleurs et en 2024. Il dit « Je n'aurais jamais imaginé devoir envisager un futur non démocratique aux États-Unis. Je ne crois pas que la démocratie soit finie, mais elle est en grand danger. Un futur non démocratique, un futur autoritariste, est-ce qu'on peut l'envisager dans un pays comme les États-Unis? Est-ce que c'est, oui, dans une des hypothèses qui existent?
Dans l'histoire du siècle qui vient de s'écouler, on a des cas de démocratie qui cessent d'être des démocraties. C'est déjà arrivé, y compris dans de grands États. Et cela peut arriver aux États-Unis. Cela étant dit, ce qui peut sauver les États-Unis, c'est le caractère fédéral du pays, avec une décentralisation des pouvoirs qui est très grande, et les Américains ne se laisseraient vraisemblablement pas faire si l'on tentait de supprimer l'expression démocratique dans l'ensemble des niveaux de la fédération. Mais, encore une fois, la démocratie américaine, elle se porte nettement moins bien qu'on ne pourrait le souhaiter. Et le risque évoqué par la personne que vous venez de citer est malheureusement là.
François Hesbourg, selon vous, où commence la prise du Capitole? Il y a cette date effectivement du 6 janvier, mais tout cela commence bien avant, en fait, le côté de cette démocratie qui se délite et la difficulté de vivre ensemble chez les Américains, c'est bien avant. Donc la prise du Capitole, selon vous, elle commence quand? Est-ce qu'elle commence à l'élection d'Obama, les procès en légitimité, la montée des Tea Party, etc.? Est-ce qu'elle commence peut-être même encore avant? C'est où le prémisse qui nous emmène à la prise du Capitole?
Pour moi, la genèse, ça commence avec l'élection en 2000, élection contestée, entre Al Gore, le vice-président démocrate sortant, et George W. Bush. George W. Bush finit par l'emporter, mais après un parcours totalement baroque, et où il n'obtient pas la majorité des voix populaires, où il n'est même pas clair qu'il ait obtenu la majorité des voix des États, où ça finit par se jouer à la Cour suprême. Et évidemment, cela a introduit un très haut degré de défiance au sein de la population à l'époque. Là-dessus arrive la guerre d'Irak, qui divise les États-Unis comme elle a divisé leurs alliés. Et on arrive effectivement au milieu des années 2000, avec les débuts de la crise financière économique, avec la montée, vous l'avez évoqué, du Tea Party, d'une polarisation sociétale dont on n'avait pas vu l'équivalent depuis les années 1970. Et cette polarisation sociétale, elle va se poursuivre tout au long des années, bien sûr, Obama. Et on se retrouve lors de l'élection, la campagne électorale de 2016 avec Trump, dans une situation où les États-Unis se trouvent déjà à l'époque dans une situation de refus de reconnaissance de la légitimité des positions de leurs adversaires politiques.
Il n'y aura pas de... Pardon, allez-y, monsieur Hesbourg, pardonnez-moi.
Et c'est et évidemment, les années Trump n'ont fait qu'aggraver cette situation. Il est devenu très difficile pour un observateur extérieur de pouvoir parfois même parler avec nos amis américains, parce que leurs positions politiques sont très souvent surdéterminent très souvent l'appréciation qu'ils peuvent faire de la situation. Pour les républicains, il ne faut pas aller se faire vacciner. Parce que c'est un truc des démocrates.
Ouais,
et pour les démocrates, il faut aller se faire vacciner parce que les républicains sont contre. Je veux dire, c'est comparé à cette situation-là, les débats que nous pouvons avoir dans les différents pays européens sur ce sujet d'actualité, très honnêtement, c'est pas le même débat. Là-bas, la Covid est devenue un sujet partisan, au sens le plus étroit. Au sens le plus étroit du terme. Et tout est comme ça.
Alors,
tout est comme ça.
Chez nous un peu aussi, mais effectivement, à une échelle, à l'image des États-Unis.
À une échelle, et surtout de façon générale. C'est-à-dire, il y a relativement peu de gens qui ne s'identifient pas clairement à un camp ou à un autre.
Il n'y aura pas de guerre civile, évidemment, façon sudiste et nordiste aux États-Unis, mais est-ce que vous diriez que d'ores et déjà, il y a une forme de guerre civile à bas bruit, en fait? Est-ce que c'est le mot qu'on emploie?
Alors, il y a des gens, effectivement, des observateurs qui parlent de guerre civile, mais pour avoir une guerre civile, il y a faut un certain nombre de conditions. L'une d'entre elles existe, c'est le fait, bien entendu, qu'il y a un accès facile aux armes. Mmh. Et ça, aux États-Unis, cet accès, évidemment, existe. Mais il faut aussi, évidemment, qu'il y ait des enjeux extrêmement clairs auxquels raccrocher le recours à la force létale, mmh. où on tue celui qui n'est pas d'accord avec vous. Ça, pour l'instant, on ne voit pas ce type d'enjeu-là. Au moment de la guerre civile des années 1860, il y avait deux enjeux. C'était la sécession des États qui voulaient quitter l'Union et la question de l'esclavage. Aujourd'hui, on n'a pas, pour l'instant, en tout cas, de point d'accroche de ce type-là.
Et parfois l'idée quand même que la violence est vécue comme le seul moyen de renverser un pouvoir jugé illégitime, c'est ce qui s'est passé au Capitole, on a été juste à deux doigts. Effectivement, il n'y a pas eu de grands groupes armés, mais enfin, allez savoir une toute dernière chose, François Hesbourg, on vous avait parlé de Joe Biden qui effectivement a beaucoup de mal au cours de cette année, vous l'avez dit, il y a un certain nombre de choses qui sont passées, ça a été extrêmement difficile, sur le Covid notamment, vous l'avez évoqué, on n'est pas dans le résultat qu'il souhaitait. Est-ce que c'est pas ça le plus grand échec? Au fond, c'est l'impossibilité de réconciliation. Peut-être même a-t-il creusé à son corps défendant cette fracture entre les deux Amériques, non?
Je pense que c'est de tous les candidats possibles, c'était celui qui était probablement le moins clivant. Ce qui est une autre façon de dire qu'il n'est pas clair qu'il y avait une alternative politique meilleure que celle qui a été retenue, mais encore faut-il que le président demeure fonctionnel.
Oui, comme vous dites, hein, j'aime les points de suspension derrière cette phrase. On note aussi qu'il devait y avoir un discours de Donald Trump demain, finalement il n'y en a pas, et peut-être qu'il y a une espèce de relation de cause à effet aussi entre le fait que la fameuse commission pointe un certain nombre de choses. On verra en tout cas ce qui se passera demain aux États-Unis. François Hesbourg, je vous remercie beaucoup.
Merci.
De votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse. Sur France Inter.
La suite, ça se passe au Brésil et vous verrez comment on lutte contre le travail forcé qui a pris encore plus d'ampleur avec la pandémie. Et puis la troupe qui vous emmène jusqu'à 19h, c'est Sous les radars et Sébastien Legénie.
Le Canada a signé un accord historique avec les familles d'enfants autochtones victimes de discrimination depuis le 19e siècle. Plus de 27 milliards d'euros d'indemnisation.
Le cinéma en VO et Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne.
Bonsoir. Un avant-goût du programme 2022 Hollywood en recycle. Heureusement, sort aujourd'hui le film qui va vous donner envie de tomber amoureux.
Allez, le monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir à vous.
Bonsoir à tous, allez, on va parler d'emmerdement, tiens, c'est le jour. Hein. On va voir que les dérapages verbaux des chefs d'État sont une pratique assez familière des dirigeants populistes.
Allez, à tout de suite, le tour de la planète continue, il passe par Chypre ce soir, figurez-vous, monsieur Doumani, Alavostis Yotis, voilà, c'était mon morceau de bravoure de la soirée, je vous remercie, et c'est sur France Inter. Le bruit du monde ce soir est au Brésil où le travail forcé au bord de l'esclavage reste très répandu et la pandémie, en précarisant encore davantage les populations les moins favorisées, n'a pas arrangé la situation. Depuis le précédent gouvernement, encore plus depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro, la lutte contre ces formes d'exploitation par le travail est régulièrement mise à mal. Nous sommes avec un groupe mobile de lutte contre le travail forcé dans le sud du pays. Et le reste, c'est Jean-Mathieu Albertini qui raconte.
Le convoi de quatre voitures soulève un nuage de poussière sur les routes terreuses du Minas Gerais. Une quinzaine d'inspecteurs du travail et de procureurs ont reçu une dénonciation pour travail analogue à celui d'esclaves et filent vers une plantation d'ail. Dès qu'ils arrivent sur place, ils se dispersent rapidement. Chacun se dirige vers un groupe de travailleurs pour récupérer le plus d'informations possible avant que le gérant puisse exercer une quelconque pression.
Tu travailles du dimanche au dimanche ?
Oui, tous les jours.
Très vite, la dénonciation semble fondée. Ils sont ici plus de 80 travailleurs à s'échiner sous un soleil de plomb 12 heures par jour. Payé seulement en rendement, Lucas baisse à peine la cadence pour répondre aux questions. En tongs et avec des gants en lambeaux, il se plaint des conditions de travail.
Ils ne nous soutiennent pas ici. On doit leur acheter les équipements de protection, les sécateurs pour travailler, ce qu'il faut pour les entretenir. Ils fournissent juste des gants et des masques, mais ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas vu la couleur.
Même si beaucoup le souhaitent, ce n'est pas si facile de partir. Les travailleurs sont tous d'une petite ville du nord de l'État, à 1000 km de la plantation. Là-bas, il n'y a aucun travail et si l'employeur est allé les chercher, il refuse ensuite de prendre en charge le retour. Or, beaucoup n'ont pas d'argent disponible pour toucher leur salaire payé en chèque. Ils doivent s'acquitter d'une taxe astronomique. Gabriel est le gérant sur place. Plutôt renfrogné, il se dit étonné, mais face au déploiement de force des autorités, il veut faire preuve de bonne volonté.
Je ne m'y attendais pas. D'ailleurs, j'étais persuadé que tout était en règle. Si on est tort, c'est parce qu'on ne savait pas. Et on est totalement prêt à corriger nos erreurs.
Au Brésil, la législation est très ample et permet de caractériser le travail esclave en cas de restriction de liberté, de servitude pour dette, mais aussi si les conditions de travail sont dégradantes ou les journées exhaustives. Ici, les travailleurs s'entassent à une dizaine par chambre dans des conditions précaires. Ceux qui ne peuvent pas travailler doivent se débrouiller pour manger et sont délaissés par l'employeur. Ronaldo est ici depuis 7 mois. Et il est physiquement à bout.
J'achète du paracétamol pour la douleur parce que je me suis blessé à la colonne et comme ils ne m'ont donné aucun remède, je dois en acheter tout le temps. Mais la douleur passe seulement un instant avant de revenir. Il y a un jour, je me suis bloqué le dos dans le champ. Ils ont refusé de m'emmener à l'hôpital. Je veux rentrer chez moi.
Très peu sont vaccinés contre le Covid-19, car s'ils se rendent à un poste de santé, ils perdent une journée de salaire. Devant l'ensemble des faits constatés, les inspecteurs embarquent tout le monde vers un hôtel d'une ville voisine. Il faudra encore récupérer des témoignages plus approfondis, négocier une indemnisation avec l'employeur et les renvoyer chez eux au plus vite. Ronaldo, épuisé mais soulagé, rassemble ses affaires.
Ah, maintenant, je me sens heureux, en finir avec cette souffrance. Et pour nous qui sommes pères de famille, rentrer à la maison, voir la famille, les enfants, ça représente tout. Et pour le futur, Dieu va nous aider.
Mais sans programme de réinsertion financé par l'État, il arrive que des travailleurs se retrouvent piégés une nouvelle fois. Pour les inspecteurs, il faut malgré tout continuer à lutter contre ces formes d'exploitation pour limiter les abus. Dès le lendemain, l'équipe se lance dans une nouvelle opération qui, là encore, se passe sans encombre. Il faut dire que 2 agents de sécurité et 3 policiers ne lâchent pas l'équipe d'une semelle. Car parfois, il y a de graves problèmes, explique Paolo Veloso, procureur du ministère public du Travail.
Nous enfrentons, oui, attaques.
On est confronté à des attaques, ce n'est pas une activité sans risque. Ici, dans le Minas Gerais, des inspecteurs du travail ont été brutalement assassinés. Et ces dernières années, les gens réagissent de manière plus agressive et avec beaucoup d'animosité envers les inspecteurs du travail.
Les inspecteurs reconnaissent volontiers que les diverses déclarations du président Jair Bolsonaro, qui minimise la gravité du travail forcé et critique leurs opérations, augmente la tension sur le terrain. Luis Antonio Rocha est l'un des plus expérimentés de l'équipe. Il se désole de la situation actuelle.
C'est de plus en plus compliqué. L'administration fédérale crée des obstacles bureaucratiques en interne et il y a tout un tas de mesures qui nous compliquent la vie. Tous les jours, il nous faut vaincre une série de batailles pour faire notre boulot. Et puis, il y a certains parlementaires qui proposent des lois pour rendre notre travail plus difficile.
Dans l'état du Minas Gerais, le nombre d'opérations reste stable, mais ailleurs dans le pays, elles sont en baisse. Il faut dire que les inspecteurs du travail sont de moins en moins nombreux. Leur action est pourtant internationalement reconnue. Depuis 1995 et le début de la lutte contre le travail forcé au Brésil, ils ont libéré plus de 55 000 personnes.
Jean-Mathieu Albertini pour le reportage. Merci beaucoup. Jean-Mathieu, à très très vite. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logeni. Sébastien, nous sommes à Taïwan, qui a décidé de célébrer de façon très particulière ses bonnes relations diplomatiques avec la Lituanie.
Oui, Taipei, la capitale taïwanaise, qui porte un toast au sens strict à Vilnius, la capitale lituanienne. Concrètement, on a appris ces jours-ci que le gouvernement taïwanais avait racheté toute une cargaison de bouteilles de rhum à un gros producteur lituanien.
L'été, les Taïwanaises qui précisent le montant de cet échange commercial tout à fait inhabituel. 20 000 bouteilles de rhum lituanien achetées par le ministère des Finances de Taïwan.
Et ce n'est pas là l'acte d'un haut fonctionnaire un peu porté sur la bouteille. C'est une politique mûrement réfléchie avec derrière tout cela, évidemment, l'éternel conflit avec le voisin chinois. Il se trouve en fait que cette cargaison d'alcool était destinée au départ à Pékin, sauf que la cargaison en question risquait à tout moment d'être bloquée par la douane chinoise. Vilnius est en effet dans le viseur de la Chine depuis de longs mois, depuis que la Lituanie a notamment décidé d'installer une ambassade à Taipei. Et il n'en fallait pas plus pour que la Chine exerce désormais des rétorsions commerciales et menace donc de bloquer ces 20 000 bouteilles de rhum lituanien. Quand Taïwan a eu vent de l'histoire, le gouvernement a décidé d'en faire ses choux gras, communiqué triomphant dans les médias pour célébrer cet achat très politique. Le gouvernement qui pousse même le bouchon jusqu'à partager sur les réseaux sociaux des recettes à base de rhum lituanien. Cocktail, gâteau au chocolat et même steak flambé à votre santé, Fabienne Zvaikata, comme on dit en lituanien.
Eh ben bravo. Direction le Canada qui va indemniser les enfants autochtones à hauteur de plusieurs milliards de dollars.
C'est la fin d'une négociation qui dure depuis maintenant 16 ans. 16 ans que le Canada a découvert le terrible sort réservé à quelques 150 000 enfants autochtones placés dans des pensionnats, des institutions religieuses pour les assimiler de force. Des enfants victimes de mauvais traitements, de violences sexuelles, 6 000 d'entre eux en serait mort entre 1831 et 1996. Cette année, la découverte des restes de 215 corps d'enfants enterrés dans une fosse commune a ravivé cette blessure de cette page sombre de l'histoire canadienne et accéléré le processus d'indemnisation en cours depuis de longues années. Hier, le pays a enfin validé un chiffre définitif. 20 milliards de dollars canadiens, près de 14 milliards d'euros seront ainsi alloués aux enfants victimes et à leurs familles. 20 autres milliards iront à la réforme des services à l'enfance. Cet avocat des familles des victimes explique qu'il s'agit de l'accord d'indemnisation le plus important dans l'histoire du Canada et sans doute l'accord le plus important au monde pour une class action, une plainte collective. L'énormité de la somme est due, dit-il, à une seule raison, la blessure profonde infligée à toute une frange de la population en raison d'une politique cruelle, dit-il, du Canada. Cet accord reste toutefois un accord de principe non contraignant pour l'État. Les associations de défense des autochtones se battent désormais pour que chaque enfant, chaque famille reçoive ce qui leur est dû, environ 40 000 dollars, et pour que les réformes soient réellement mises en place. La page est encore loin d'être tournée.
Allez, on termine dans un bourdonnement qui nous vient d'Amérique du Sud.
Oui, ça se passe au Chili, Fabienne, où des apiculteurs en colère ont eu l'idée audacieuse de faire, tenez-vous bien, manifester des abeilles à leur place pour protester contre la sécheresse. C'était ce lundi devant le palais gouvernemental de la Moneda à Santiago, la capitale. Des dizaines de ruches installées en pleine rue, 10 000 abeilles au total, je n'ai pas le son malheureusement, pour réclamer des aides, mais ça fait pas beaucoup de bruit les abeilles, pour réclamer des aides aux autorités face à une sécheresse exceptionnelle dans le pays, une sécheresse qui tue les fleurs, principale nourriture des pollinisatrices. On entend là quand même un apiculteur, mes abeilles, dit-il, meurent à cause de la sécheresse, alors que les abeilles sont très importantes dans le monde entier, il n'y aurait plus de vie si toutes les abeilles mouraient, sans mauvais jeu de mots, quoique les manifestants ont fait le buzz. Mais
ne sont pas restés bien longtemps dans la rue. 4 d'entre eux ont été arrêtés et 7 policiers ont été piqués. Leurs jours ne sont pas en danger.
Voilà, et les ruches ont été enlevées dardard. Non, on peut non.
Okay, je vous remercie. Moi, je rigole à vos blagues, Fabienne.
Merci beaucoup, Sébastien. Vraiment, du coup, vous pourrez revenir. Et vous partez avec Paolo Conte, une chanson que je ne vais pas me risquer à prononcer, mais c'est un classique sur France Inter. A tout de suite. Da, 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 da. Da-da-da-da, da-da-da-da-da. Hannah, hear me, just I whisper all of you, I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva. Ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz, si capisce il motivo. Da 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 da. Da-da-da-da-da-da-da-da. And I hear me, yes, I whisper all of you, I whisper all of you. Yes. Yes, indémodable Paolo Conte sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Allez, cinéma avec Corinne Pellissier.
France Inter. Un jour dans le monde.
Le cinéma en VO, donc Corinne Pellissier. C'est vrai que ça donne envie de danser, ce truc. Pendant trois semaines, sans les pop-corns, d'accord, mais pas sans les blockbusters. Après le phénomène Spider-Man, Corinne, qui a reboosté la fréquentation dans les salles, le programme 2022, c'est une avalanche de sorties, une tendance assez nette à la nostalgie aux films de super-héros.
Ah bah oui, pourquoi changer une recette hein, lorsque l'original a déjà fait ses preuves et rempli surtout les tiroirs caisses. 2022, Hollywood sera l'année des grands retours, des reboots et des spin-offs parmi les plus attendus. Le nouveau James Cameron, retour sur la planète Pandora 13 ans après le choc visuel du tout premier Avatar. Le film le plus vu de toute l'histoire du cinéma qui a repris aux Avengers la tête du box-office depuis sa ressortie en Chine en mars dernier. Ce sera la grande aventure cinéma de cette fin d'année. L'une des plus chères aussi, avec un budget estimé à 250 millions de dollars. Également très attendu au rayon des suites, les nouveaux Jurassic World, Top Gun, Mission Impossible, un troisième volet des Animaux Fantastiques, ainsi qu'une armada de super-héros, Black Panther, Doctor Strange, Thor, Aquaman, The Flash. Et celui qui a déjà prévu en mars de casser la baraque, Robert Pattinson, dans le rôle du
Batman.
Bruce Wayne.
Sorry.
I wouldn't be bothering you here, but your people keep telling me you're unavailable.
Alors il faudra se lever tôt quand même, parce que Christopher Nolan avait été déjà pas mal hein, sur la précédente trilogie. Là, c'est un reboot par le réalisateur de La Planète des Singes, Matt Reeves, qui a déjà promis aux fans le Batman le plus émouvant jamais tourné dans une atmosphère crépusculaire. C'est ce que laisse entrevoir la première bande-annonce.
Alors ça fait donc beaucoup de monde et c'est pas fini, puisqu'en 2022 sont également attendus des nouveaux films, ceux de Baz Luhrmann, de Roland Emmerich, de Kenneth Branagh, de Steven Spielberg, de Guillermo del Toro, d'Alejandro Iñárritu, et dites-moi, et de Paul Thomas Anderson.
Exactement, avec le fantastique Licorice Pizza qui sort ce mercredi au cinéma, baigné d'une incroyable lumière californienne pour une plongée dans les années 70. Alors tout y est, l'atmosphère, les décors, la BO, la légèreté, l'insouciance. C'est un film solaire, enivrant, sur la naissance du désir entre un adolescent et une jeune femme qu'a priori tout oppose. Il y a leur âge déjà, puisqu'ils ont quasiment 10 ans d'écart. Vous avez d'un côté le lycéen dragueur, Cooper Hoffman, fils du comédien disparu Philip Seymour Hoffman, qui était à la fois un ami proche de Paul Thomas Anderson et l'un de ses acteurs fétiches. C'est son premier rôle, il crève l'écran par sa justesse, par sa présence.
Fils de son père, donc.
Il est vraiment le fils de son père. Et puis il y a face à lui la belle assistante photographe jouée par la chanteuse Alana Haim, que vous connaissez peut-être, Fabienne. Plusieurs fois mise en scène dans des clips de Paul Thomas Anderson avec son groupe de rock, et qui décroche là aussi son premier rôle au cinéma. Coolitude absolue, hein, avec ses longs cheveux noirs, ses pantalons pas de def, incarnation de cette jeunesse 70s que le réalisateur a mis en scène chez lui dans la vallée de San Fernando, où il avait déjà tourné précédemment Boogie Night, Punch Drunk Love ou encore Magnolia.
I have a story and I happen to have all of them right in front of my face.
J'avais déjà l'histoire, et pour le casting entre ma fille et son groupe de copains, je n'ai eu qu'à me pencher. Chaque fois que je croisais un jeune, j'étais là. Ok, toi t'es dans le film, bah toi aussi, t'as un petit frère, bah, génial, on le prend aussi. Je les connaissais tous, hein. C'était très pratique, on se pose beaucoup moins de questions. C'était comme tourner chez moi, dans mon jardin. L'environnement, je le connaissais par cœur, les gens aussi. Et quand bah, moi aussi j'avais leur âge, j'ai craqué pour les mêmes filles plus âgées et inaccessibles. Je voulais tellement avoir l'air cool, mais aussi traîner avec elle, j'ai vécu exactement la même chose.
Alors voilà, c'est un film où il ne se passe pas grand-chose. Au final, on joue au chat à la souris, on passe des castings, on vend des lits à eau, on ouvre des salles de flippers, mais le résultat est vraiment authentique, puissant, avec en toile de fond le visage de cette Amérique des années 70 qui découvre la crise du pétrole et se console avec le cinéma. Beaucoup de clins d'œil, de références aussi que le public français aura peut-être un peu de mal à saisir, mais en tout cas largement compensé par le souffle de cette romance platonique un peu gauche, avec en prime un Bradley Cooper qui va vous faire pleurer de rire dans le rôle de John Peters, producteur, coiffeur, ex-mari de Barbara Streisand.
Do you know who my girlfriend is?
Barbara Streisand?
Barbara Streisand.
Écoutez, tout ça est très alléchant. Corinne, merci beaucoup, pourvu qu'on en profite à l'ancienne, c'est-à-dire sans masquer avec popcorn. Et sinon, à mercredi prochain.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, les propos d'Emmanuel Macron dans Le Parisien ont donc alimenté la polémique toute la journée. C'est sans doute pas fini. Le président y parle de son envie d'emmerder les non-vaccinés. Et vous êtes allé voir si ce registre de vocabulaire assez trivial est pratiqué par d'autres chefs d'État dans le monde. La réponse est oui, mais ce type de dérapage calculé, c'est surtout le propre des dirigeants populiste, et c'est votre monde d'après.
Ouais, y a que les naïfs ou les menteurs en fait pour jouer les étonnés. D'abord, c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron utilise ce type de vocabulaire. Et puis d'autres à l'Élysée l'ont précédé, on le sait sur ce terrain, notamment Nicolas Sarkozy et son casse-toi pauvre con resté dans les annales. Mais donc surtout, ce n'est pas une spécificité française. Et voici un petit fleurilège. Vous allez voir, il y a du lourd. Chez notre voisin britannique d'abord, Boris Johnson, à la fois polyglotte cultivé et adepte des formules de Chartier, il y a quelques mois, il lâche préférer voir s'empiler les corps plutôt que de confiner. C'est élégant. Quelques mois plus tôt, dans un autre style, les djihadistes sont des branleurs qui pratiquent la masturbation intensive. No comment. Et puis il y a tous ceux qui font dans l'injure personnelle, y compris à l'adresse d'un autre dirigeant, Berlusconi, alors président du Conseil italien, proposant à un député européen allemand de jouer un rôle de capot dans un film sur un camp nazi. Le philippin Duterte traitant Obama de fils de pute, oui oui. Le vénézuélien Chavez appelant Bush le diable. Et tiens, allez, encore un petit Boris Johnson pour la route, il n'était alors que maire de Londres. Hillary Clinton ressemble à une infirmière sadique dans un hôpital psy. Donc vous voyez, il y a la concurrence. Hein.
Mais alors l'attaque agressive, c'est quand même un registre utilisé surtout donc par les dirigeants dirigeants populistes, hein, Jean-Marc.
Oui, alors là, les deux exemples flagrants sont évidemment Donald Trump et son cousin des tropiques, le brésilien Jair Bolsonaro. Trump, d'abord, nous a gratifié d'un « les immigrés mexicains sont des voleurs » ou bien « la paresse est un trait de caractère des Noirs ». Et puis, bien sûr, il a injurié la presse un nombre de fois incalculable. Bolsonaro, ensuite, s'en prenant à l'un de ses rivaux, « cette merde de gouverneur de Sao Paulo ». Tiens, voilà la merde, là aussi. Ou bien encore « un bon délinquant est un délinquant mort ». Et aussi à l'adresse de journalistes du célèbre groupe de médias au Globo, « vous êtes des salauds ». Bon, dans les deux cas, il ne s'agit pas de dérapage, d'outrance incontrôlable, d'erreur de communication. Non, c'est tout l'inverse. Il s'agit généralement d'une stratégie délibérée, stigmatiser l'adversaire, alimenter les divisions, opposer les gens pour mieux souder son propre camp. Tout cela a d'ailleurs été théorisé par des hommes comme Steve Bannon, l'ancien conseiller de Trump. Emmanuel Macron reprend donc à son compte cette stratégie populiste. Il dénonce les non-vaccinés, les oppose aux vaccinés, en misant sur le fait que les seconds sont exaspérés par les premiers, ce qui est fort possible. Et comme les vaccinés sont ultra-majoritaires, le futur candidat y voit un calcul efficace.
Donc ok, mais le logiciel politique d'Emmanuel Macron n'a pas grand-chose à voir quand même avec celui des dirigeants populistes, Jean-Marc.
Il y a beaucoup de différences, c'est vrai. Mais cette formule « j'ai envie de les emmerder », c'est pas seulement un calcul politique. Elle est aussi la conséquence d'une situation politique et sociale. D'abord, c'est le reflet d'une société profondément polarisée où la radicalité d'un bord alimente la radicalité de l'autre bord et ainsi de suite, engrenage dangereux, comme la société américaine. Et plus sans doute, par exemple, que la société allemande. Ni Angela Merkel, ni Olaf Scholz aujourd'hui n'utiliseraient ce genre de formule sans doute parce que l'objectif supérieur en Allemagne, c'est de faire compromis, idéalement consensus. Ce propos macronien sur l'envie d'emmerder, il est aussi le reflet d'une autre évolution prégnante en Occident, notamment aux États-Unis, la domination de la société du spectacle. La formule, y compris dans son côté trivial et populaire, répond à la dictature du buzz, occuper l'espace, espérer un tsunami médiatique, c'est réussi, et du coup être au centre du débat, dicter l'agenda. Et là, on retrouve Trump, expert en la matière, incarnation de cette société du spectacle, le triomphe de la formule choc qui contraint les autres à réagir. Un président ne devrait peut-être pas dire ça, mais un candidat, lui, peut avoir intérêt à le dire. Et c'est précisément pour cette raison que Trump en usait et en abusait. Il n'a jamais été vraiment président. Il s'est toujours comporté comme un candidat. L'un de ses t-shirts de campagne disait même « j'emmerde les libéraux ». J'emmerde, toujours et encore. C'est aussi pour cette raison qu'Emmanuel Macron s'aventure sur ce terrain. Il est désormais plus candidat que président.
Le Monde d'après, c'est signé Jean-Marc Four et c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le 18-20, deuxième heure, c'est le journal d'Hélène Philly qui arrive tout de suite et puis le téléphone sonne. À tout de suite.